18-20, Julien Bugier.
18h32, place au débat des grandes voix avec à mes côtés ce soir Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir Julien.
Un ministre de la Santé sous pression, des files d'attente qui s'allongent devant les laboratoires pour effectuer un test, ce qui provoque, paraît-il, la colère du président Macron. Et puis l'OMS, qui dans le même temps déplore un niveau de contamination en Europe alarmant. Pas d'annonce fracassante, Olivier Véran a tenu une brève conférence de presse tout à l'heure et il a dit ceci.
Nous avons réussi le pari du dépistage massif, mais nous sommes, au regard du nombre de tests réalisés chaque jour, confrontés à de réelles difficultés organisationnelles que nous devons résoudre.
Voilà, bien malin qui est celui qui s'y retrouve ce soir, Catherine Ney. Nous sommes confrontés à des problèmes organisationnels de tests, le virus est là, il circule de plus en plus. Discours, encore une fois ce soir, un peu, j'allais dire alarmiste, mais sans annonce réelle. Et puis, ça y est, on révèle enfin que la campagne de tests qui a démarré maintenant il y a plusieurs mois, on se rend compte que c'est inefficace, en tout cas de la manière dont elle est menée.
C'est-à-dire que le 11 mai, le président Macron avait annoncé que bientôt, dans quelques mois, il y aurait 700 000 tests par semaine. Et là, on en est à 1 200 000. Donc, il y a eu un progrès formidable. Mais seulement... comme on a laissé toute latitude aux Français de venir se faire tester sans avoir d'ordonnance, gratuitement, eh bien, il y a des embouteillages. Et dans les villes où il y a de la panique, il y a des gens qui viennent presque tous les jours se faire tester et il n'y a pas de contrôle. Des jeunes qui ont fait une réunion des surbooms et qui ont peur viennent dès le lendemain se faire tester, recommencent plusieurs fois. Et donc, il faut y mettre de l'ordre. Ça, ce n'était pas prévu. Oui. Vous voyez, donc, déjà la semaine dernière, le Premier ministre, qui a parlé d'ailleurs à la place d'Olivier Véran, qui a été annoncé le jeudi, mais c'est le Premier ministre qui a parlé le vendredi.
On dit que c'est une sanction parce qu'il s'est fait taper sur les doigts par Emmanuel Macron.
Oui. Ou parce que le Premier ministre est le chef du gouvernement et qu'il voulait montrer que c'était à lui de le faire. C'est ambigu tout ça. Mais enfin, peut-être qu'il n'était pas content à cause de cet embouteillage. Mais comment faire pour, quand on ouvre les vannes... Eh bien, les gens s'engouffrent,
oui.
Vous voyez.
Charles Villeneuve, j'allais dire cafouillage épisode 12.
Non, moi, je ne crois pas. Je crois qu'il était dans une sorte de schizophrénie pour ne pas déplaire au président, en effet, parce que le président a affaire à éviter, il a voulu éviter, en tout cas, en tapant un peu du poing sur la table, un double danger. Le danger, d'abord, d'accentuer l'anxiété des Français et, à ce moment-là, de freiner la consommation, qui a quand même repris un peu. Et puis aussi, par rapport aux entreprises qui jouent le jeu.
Oui, les Français jouent le jeu entre crise sanitaire et économie.
En gros, moi, je trouve que les Français jouent le jeu quand même des masques. Oui. Simplement, ce qu'il ne faut pas rater, comme on avait raté dans un premier temps les masques, il ne veut pas rater le problème des tests.
Oui, et là, mais un million de tests par semaine, oui. Pourquoi
1 200 000
mais pourquoi faire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on était à la traîne, on est le pays européen qui teste le plus aujourd'hui, qui teste le plus devant l'Allemagne. Et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, Michel Cotta.
On a tellement dit qu'il n'y avait pas assez de tests, que du coup, il y en a trop.
Ceci étant, on les utilise
au conseil, il y en a trop. Il y a trop d'utilisateurs qui donc les utilisent pour n'importe quoi, pour se rassurer. Mais surtout, il y a effectivement une intendance qui ne suit pas. C'est-à-dire qu'on bien, ces tests, il faut attendre 72 heures pour avoir les résultats.
Au bas mot.
72 heures, si vous êtes malade 3 jours, vous arrivez au 4e jour et c'est le 4e jour qui est le plus dangereux.
Et puis vous avez contaminé toute la famille et tout votre entourage.
Donc effectivement, le président a mais je crois qu'il n'a pas particulièrement attrapé, engueulé son Premier ministre. Je crois qu'il a carrément engueulé Véran.
Le ministre de la Santé.
Vraiment. Il n'y a pas du tout de problème entre le Premier ministre et le président de ce côté-là. Donc c'est très difficile maintenant pour
Véran. Oui, on dit que le président a désavoué son ministre de la Santé la semaine passée en Conseil de défense parce que celui-ci plaidait pour une fermeture moins tardive des bars, des restaurants à Bordeaux notamment et à Marseille. Et le chef de l'État lui a dit en substance: occupe-toi d'abord des tests et puis on verra le reste après.
Il a dit surtout pas confiner. Il a dit surtout tout sauf le confinement.
Oui, mais c'est vrai. Ouais. Tu as raison. Parce qu'il y a une réalité qui est très importante et qui a pesé de toute façon justement dans l'agacement du chef de l'État, c'est que les deux tiers des patrons français et des affaires, des entreprises qui font un chiffre d'affaires entre 15 millions et 500 millions, les deux tiers considèrent qu'ils ont finalement, un peu plus d'espoir par rapport à la relance de leurs entreprises. Oui. Et ça a pesé. C'est un sondage Elab qui a été fait... Opinionway, dans Challenge, oui. et qui est très intéressant sur ce plan-là.
Oui.
Et
donc, mais le numéro
d'où la prudence du président.
Patrick Martin, qui était juste avec moi là, oui. Avant votre arrivée MEDEF, dans le studio, oui. le numéro 2 du MEDEF, nous disait, en cas de reconfinement, on frise l'effondrement absolument. De l'économie française. Absolument. On rentre dans l'inconnu.
Absolument. La reprise, par exemple, était, si vous voulez, prévue entre 8,5 et 9% de moins. Oui. Or, elle est à 6.
Oui.
Donc, c'est pour ça que les patrons français, en tout cas des petites et moyennes entreprises, et même des entreprises un peu plus grosses, parce qu'à partir de 500 millions d'euros, c'est des entreprises intermédiaires oui, qui oui. sont importantes, sont plus optimistes que prévu.
Mais sur les tests, on se rend bien compte, j'en reviens aux tests, parce que quand même, c'est assez incroyable l'aveu tout à l'heure d'Olivier Véran qui dit en fait, on teste 1 million de personnes, mais on a des problèmes organisationnels. Oui. Moi, j'entends les médecins qui disent, il faut mieux tester 500 000 personnes et avoir les résultats en 24 heures qu'en faire 1 million et devoir attendre 8 jours, parce oui, qu'on contamine tout le monde.
Mais oui, mais ça, c'est le. C'est quand les tests, faites-vous tester. On disait, faites-vous tester. Les gens, ils sont allés, tous ceux qui sont angoissés, et même ceux qui n'en avaient pas besoin, même ceux qui prenaient un rhume pour un Covid. Et c'est surtout ces problèmes d'embouteillage, c'est surtout les grandes villes, parce qu'on se fait moins tester en province aussi.
Enfin, vous avez vu ce qu'il a dit, là.
Oui.
Il a dit, si vous ressentez des symptômes ou si vous avez été cas contact, n'allez pas vous faire tester tout de suite. Vous restez chez vous 7 jours, 7 jours. Après. Vous allez vous faire tester,
oui,
ça. Ce qui est totalement nouveau dans la stratégie. Hein.
Oui,
c'est le cas, mais ça,
Michel Cotta.
C'est la remise de la quatorzaine aux 7 jours, qui effectivement va aussi dans le même sens. Alors, permet aux gens de s'arrêter et de reprendre plus vite le boulot. Je crois qu'en réalité, Emmanuel Macron a eu là vraiment très peur de l'effondrement.
Oui.
Et donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Il avait confiné en se disant que le moindre mal, c'était de faire du confinement pour éviter l'épidémie. Et là, il se dit que le moindre mal, c'est de laisser circuler le virus.
18h39, on se retrouve dans quelques secondes et on continue d'en parler. On évoquera aussi le Front National, j'allais dire non, le Rassemblement National, bien sûr, maintenant. Il y a du rififi dans l'air autour de Marine Le Pen. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours ensemble en direct à 18h41 avec le débat des grandes voix. Catherine Ney ce soir à mes côtés, Michel Cotta et Charles Villeneuve. Et on évoque cette prise de parole du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui reconnaît une désorganisation dans la campagne de dépistage des tests. On en parle donc ce soir avec les grandes voix. Vous me disiez, Catherine Ney, pendant la coupure publicitaire, qu'il a dit aussi quelque chose d'important, Olivier Véran. Il a expliqué qu'on en savait plus aujourd'hui sur le mode de transmission du virus.
Le virus n'est pas moins dangereux, mais il est moins rapide. Il dit qu'au début, au mois de mars, avril, une personne malade en contaminait deux. Une personne malade en contaminait une. Au mois d'avril, une personne malade contaminait trois personnes en 4 jours.
Oui.
Aujourd'hui, une personne malade en contamine deux, mais en 15 jours.
D'accord.
Voyez
mais donc surtout, les contaminations vont moins vite.
Moins vite. Et surtout, maintenant, on connaît mieux le virus et on a trouvé des traitements qui permettent que les gens, s'ils vont en réanimation, ils restent moins longtemps. On les intube de moins en moins et ils sortent de l'hôpital plus vite qu'avant.
Oui.
Donc ça aussi, c'est un espoir. Ils entrent à l'hôpital, mais ils en sortent plus vite.
Et puis l'enjeu politique aussi.
Oui, il y a un enjeu politique très important
cette rentrée
qui, à mon avis, explique réellement la mauvaise humeur d'Emmanuel Macron.
Qui a été réelle, Michel Cotta.
Qui a été réelle, tous les témoins qui a saisi beaucoup les gens qui étaient là. Alors, cette dernière partie, c'est la dernière partie de son quinquennat. Il faut bien voir ça. On lui dit depuis des années, vous ne parlez pas de la laïcité, vous ne parlez pas de la sécurité, vous ne parlez pas du régalien. Il se met à parler du régalien vendredi dernier et il s'attend à une déclinaison pour le mois qui vient, séquence régalienne qui est très importante pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il est au fond rattrapé par le virus.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a de quoi pour un président de la République se mettre en colère peut-être contre les autres, ça je suis pas sûr, mais s'inquiéter pour lui, oui je crois.
Et des tours de vis, il en est question quand même dans les semaines qui viennent, puisqu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a rappelé, il a demandé quand même au préfet des zones concernées par la forte contamination de lui faire des propositions en cas de d'aggravation de la situation sanitaire.
On est en train de s'aligner sur les Espagnols et les Anglais, et notamment au niveau des réunions. Mais je trouve que dans le fait que le président de la République a tapé sur la table, il y a un autre message qu'il délivre qui est assez important.
Lequel ?
Compte tenu de la prise de parole du président du Conseil scientifique, c'est que celui qui décide, c'est le politique.
C'est le chef de l'État.
Et parce que c'est lui qui rend compte aux Français c'est pas les scientifiques qui rendent compte aux Français. Et les Français demandent des comptes aux politiques.
Oui, mais là, il y a eu un changement de pied, parce qu'au départ, ils se rangeaient derrière l'avis des scientifiques pour prendre des décisions. Oui. Oui. Tandis que maintenant, il dit le Conseil scientifique parle, et d'ailleurs... préconiser des mesures sévères, et puis finalement, il n'y en a pas eu parce que c'est le politique qui décide.
Ça prouve que l'économique
a gagné.
Ça prouve que l'économique, par rapport...
Mais on verra dans quelques semaines, Michel.
Qu'on a privilégié, en tout cas, qu'il privilégie l'économie.
Mais on verra dans quelques semaines.
Et on verra, en effet, si c'est un pari très dangereux.
Bien. On passe à la suite avec les grandes voix.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Du rififi au Rassemblement National, ça tangue visiblement pour Marine Le Pen, qui est l'objet d'une fronde au sein de sa propre famille. Robert Ménard, le maire de Béziers, sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, qui met en doute les capacités de la patronne du RN à mener ses troupes vers la victoire. Voilà ce que déclarait, par exemple, il y a quelques jours, Robert Ménard, le maire de Béziers.
Moi, je ne veux pas me résigner à une défaite annoncée de Marine Le Pen. Elle est la garantie, l'assurance-vie de M. Macron. Elle est la certitude pour M. Macron qu'il sera chef de l'État. Et je ne veux pas ça, mais vous plaisantez.
Mais pourquoi?
Mais parce qu'elle va perdre aujourd'hui un candidat étiqueté Rassemblement National. Je vous garantis qu'il ne sera pas chef de l'État.
Voilà, premier étage de la fusée. Deuxième étage de la fusée, sa propre nièce, Marion Maréchal.
On ne peut pas faire semblant de ne pas voir ce que tout le monde voit. Je veux dire, ça paraît évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner seul. Je pense qu'une fois de plus, les marges de manœuvre se trouvent plutôt chez une partie des LR, pas exclusivement, mais chez une partie des LR, et qu'il faut pouvoir assumer cette ouverture vers cet électorat et vers peut-être ses élus.
Voilà, Marion Maréchal Le Pen, c'est une fronde assez inédite quand même, ce qui est en train de se passer au Rassemblement National.
Oui, d'autant qu'elle avait dit qu'elle ne se présenterait pas. Mais on voit qu'elle n'arrête pas de donner des petits signes, des cartes postales.
Vous parlez de sa nièce, Marion Maréchal
Le Pen, avait dit qu'elle ne se présenterait pas. Effectivement, elle a des liens personnels et familiaux très importants avec Marine. Elle avait dit qu'elle ne se présentait pas. Enfin, elle n'avait pas dit qu'elle commençait comme ça, mezzo voce, une campagne. Alors, avec de temps en temps, elle dit aux journalistes, attendez. Et puis, elle réunit autour d'elle des assises avec Éric Zemmour qui fait un malheur. Et puis maintenant, il faut dire qu'elle s'appuie sur le fait qu'il y a une purge incroyable à l'intérieur du Front National, ne serait-ce qu'avec le départ de Nicolas Bay, qui était quand même secrétaire général du parti.
Ça s'est passé cet été au sein des instances du RN. Marine Le Pen a fait le ménage avec l'éviction de la commission d'investiture, vous l'évoquiez, de Nicolas Bay, proche de Marion Maréchal Le Pen, et de Gilbert Collard, ce qui a suscité quelques grincements de dents.
Oui,
c'est inédit quand même ce qui se passe au Rassemblement National. Et est-ce que on va aller un peu plus loin? Je vais vous poser la question. Peut-être que tout le monde se pose derrière son poste. Est-ce que ça peut pénaliser la candidature de Marine Le Pen en 2022?
Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent pénaliser la candidature de Madame Le Pen, parce que d'abord elle ne gagne plus d'élections. Vous voyez, les municipales, ça a été un flop, et donc et les régionales ne seront pas bonnes pour elle non plus. Elle a perdu beaucoup le nombre de ses
élèves. À part à Perpignan,
mais il ne s'était pas présenté sous l'étiquette Rassemblement National. Oui. Et elle n'a pas été le soutenir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
Oui.
Et elle s'est montrée gaulliste parce que c'était plus pour le gêner, parce que l'électorat qui est pied noir n'est pas vraiment gaulliste, voyez. Donc il y a une brouille entre Louis Alliot et Marine Le Pen, et que peut-être ceci explique cela, une rupture. Bon, mais là, c'est autre chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ses troupes ne croient plus en elle. C'est un vrai problème. Et puis, il se passe quelque chose, on aura une réponse le 25 septembre, c'est après-demain, il y a une audience au tribunal de Nanterre où elle doit prouver que son parti n'est pas en dépôt de bilan. On lui demande ça depuis 3 ans, or on va montrer qu'elle doit 30 millions, qu'elle ne peut pas rembourser. Donc, probablement, un administrateur judiciaire va gérer la boutique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle dit qu'elle se présentera hors parti, qu'elle sort du parti. C'est parce que si elle est condamnée pour banqueroute, elle n'est pas inéligible. Donc, elle essaiera de se présenter sous une étiquette à elle, Marine, mais il faudra aussi trouver de l'argent, parce qu'elle n'aura pas d'argent pour les régionales et elle n'aura pas d'argent pour la présidentielle, puisqu'elle ne rembourse pas ses dettes.
Alors Charles Villeneuve, je vous laisse affûter votre argumentaire. On se retrouve juste après la pause et puis vous me dites, vous, ce que vous en pensez de cette candidature en 2022 de Marine Le Pen. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50 avec le débat des grandes voix. On est toujours ensemble en plateau avec Charles Villeneuve, avec Michel Cotta et avec Catherine Ney. On parle de cette fronde à laquelle qui secoue en ce moment le Rassemblement National. Charles Villeneuve, quel est votre point de vue? Est-ce que ça peut d'une certaine manière déstabiliser la candidature de Marine Le Pen en 2022? Et peut-on vraiment, au fond, parler de scission?
Non, absolument pas. Elle est le problème et la solution. C'est vrai qu'elle est le problème depuis 2013, depuis qu'elle a refusé catégoriquement de considérer que c'était un sujet important, le sujet sociétal du mariage pour tous.
Oui.
C'est à partir de là que ça a commencé à gronder. Et c'est vrai qu'en même temps, il n'y a plus d'idées nouvelles. Il n'y a pas de travail réel sur les idées nouvelles. Ça, c'est vrai. Mais quelle est la solution de remplacement? Qui pour représenter le Rassemblement national?
Sa nièce n'est pas une... Qui... Alors...
Mais sa nièce, enfin, une possibilité. Il faut être sérieux. Alors, il faut être sérieux.
Comme dit...
Elle a quelle représentativité? Elle a, jusqu'à présent, si je peux finir, si tu veux, mon raisonnement. Bon, oui, merci. Bon, et donc, sur le plan des idées, il n'y a rien. Donc, le parti n'a jamais été aussi vite, ça c'est vrai. Mais les contestations de Ménard et de Marion Maréchal, ce n'est pas nouveau non plus. Et qu'est-ce qu'ils représentent au sein du parti et dans l'électorat? D'autant qu'elle a des terrains fertiles. Parce que la crise sanitaire n'est pas finie.
Oui.
Bon,
dit qu'il y a une divergence, Charles Villeneuve, une divergence d'approche. C'est-à-dire que Marine Le Pen est sur un positionnement axé sur l'antimondialisation, l'ensauvagement, la peur du déclassement, et que la ligne défendue par Robert Ménard et Maréchal Le Pen est plus une ligne identitaire, anti-islam. Est-ce que les deux sont conciliables? Est-ce qu'elle peut gagner en allant sur cette ligne-là, Marine Le Pen?
En tout cas, elle a largement fait progresser il ne faut pas l'oublier, en 2017, le score de son père qui était à 20 points en 2002, elle a monté à 32. Maintenant, le problème pour gagner, il lui faut aussi avoir, notamment, il faudrait qu'elle séduise aussi une partie de la bourgeoisie.
Oui.
On ne gagne pas seulement avec des votes populaires. Or, elle puise surtout toute son action, a été d'aller chiper et choper même une partie de l'électorat de la France insoumise.
Oui.
Et c'est vrai que sur ce plan-là, elle a un terrain fertile, notamment avec l'insécurité, mais pas seulement.
Oui.
Avec la gestion de la crise sanitaire, ce n'est pas fini. On ne sait pas si l'emploi va revenir. On ne sait pas. C'est pour ça que le président de la République a été prudent dans cette affaire et a tapé du poing sur la table pour ne pas affoler encore plus les Français.
Oui. On dit que Marine Le Pen ne peut pas gagner. C'est ce que lui reproche sa nièce Marion Maréchal Le Pen, qu'elle ne peut pas gagner si elle ne tend pas la main aux Républicains.
Alors, il y a une divergence majeure entre elles. Marine Le Pen, elle veut l'union ni à gauche ni à droite, c'est-à-dire qu'elle veut l'union de tous les populismes qui viennent de gauche ou qui viennent de droite. Bon, là-dessus, c'est pour ça qu'elle dit, elle rend hommage à De Gaulle, et puis après, le lendemain, elle tend la main à la population de la France insoumise. Bon, alors là, c'est une vraie divergence. Et la divergence avec Marion Maréchal Le Pen, qui est, si on n'arrive pas
à
réunir toutes les droites, tous les Républicains compris.
Ça ne marche pas, on a vu Mariani donc, est venu au Rassemblement national,
en fait,
mais elle
n'a pas vu
personne.
Ça ne marche pas, mais j'ai l'impression quand même, Marion Maréchal Le Pen, elle se fait chambrer, si j'ose dire, par beaucoup de gens autour d'elle, d'Éric Zemmour, autour d'elle, qui lui disent il faut se présenter, et donc elle essaye d'exister sans vouloir vraiment se présenter. Mais c'est une ligne, je crois, de fracture qui restera entre les deux.
Catherine Ney.
Oui, mais c'est vrai que quand on voit Marion Maréchal dans ses interviews, c'est un esprit ductil, elle maîtrise la pensée, elle a une ligne, elle est séduisante, mais moi je trouve qu'elle est encore... On voit ce qu'un homme comme Emmanuel Macron, qui a été élu à 39 ans et dont on dit aujourd'hui que c'est bien jeune pour être élu. Vous voyez, est-ce qu'une fille, aussi brillante soit-elle, qui porte... peut être une candidate crédible à l'âge de 30 ans, aujourd'hui, alors que pour gouverner, enfin on n'imagine pas au pouvoir, mais pour gouverner, les choses sont si complexes. Il faut connaître tellement de choses et avoir un entourage de professionnels, d'arriver comme ça, en ayant...
Mais vous savez que la politique, c'est aussi une image, une histoire d'image. Elle peut ringardiser d'une certaine manière.
Ben oui, mais ça ne suffit pas. Ah, mais ça, elle l'a déjà ringardisé d'une certaine manière.
Elle n'a aucune ambition pour 2022.
Mais non.
Aucune. Mais jamais.
Ouais. Elle n'ira pas.
Elle n'a pas une seule fois dans les conversations que vous pouvez avoir avec elle envisagé de se présenter en 2022.
Alors pourquoi c'est sorti?
Mais parce que là où elle a raison, c'est qu'on ne peut pas gagner sans alliance. Et que le Rassemblement national, il faut d'abord un programme, premièrement. Donc il faut agiter les idées. Pour l'instant, il n'y en a pas.
Mais
il
faut arrêter de vouloir me remettre la retraite à 60 ans.
Mais les Républicains, ils ne sont pas du tout prêts à une alliance avec le Rassemblement national.
Deuxièmement, il faut des alliances. Il faut non seulement un programme, des alliances. Et puis quelqu'un qui incarne le parti.
Oui.
Or, qui peut incarner le parti mieux qu'elle? Pour l'instant, Il n'y a pas
d'alternative.
C'est pour ça que je dis qu'elle est à la fois un problème et, une et la solution.
C'est vrai, je vais juste raconter une anecdote qui m'a fait beaucoup rire.
Vous avez quelques secondes.
Quelques secondes. Alors, Gilbert Collard a été exclu, a fait partie de la première charrette des exclus, l'avocat. Bon, alors, il a dit « je démissionne ». Et puis, Marine Le Pen l'a rappelé et lui a dit « je vous charge de la culture dans la prochaine campagne électorale ». Et du coup, Gilbert Collard est rentré au foyer. Je trouve que vraiment, une démission brandie
elle
pour rien.
Elle l'a séduit par un poste, c'est ce que vous voulez dire. Ça. Bien, merci à tous les trois, merci les grandes voix pour ces éclairages ce soir. 18h56, on marque une pause. Et on se retrouve dans quelques secondes avec le journal, l'info bien sûr, et juste après on ouvre le Club des idées. Un grand entretien au programme ce soir avec l'ancien Premier ministre Alain Juppé. A tout de suite.